Blablamix.
Blablamix.
Blablamix. Yeah, my neighbor, your neighbor. Can you really trust? Who can we really trust? On a time like this.
C'est Blablamix.
Blablamix.
Blablamix. Blablamix, des personnes de là-bas sont dorénavant ici. Quelle différence entre là-bas et ici? Le temps,
Shomoy.
Le vent,
Batash.
Le feu,
Agun.
La paix,
Shanti.
Blablamix invite Anthony Oliva, un cinéaste en devenir.
Blablamix aske Anthony Oliva ke amontro janiyeche amader studio te.
Attendre et sombrer dans la morosité ou étudier et apprendre. Réseau Université sans frontières avec nous.
Réseau Université sans frontières ekti protestan kaj kore bhinno deshe manusher jonno.
Mehmet, une insertion réussie, témoignage réconfortant.
Mehmet ekjon byakti je nijer desh theke onno deshe eshe shanti khuje peyeche.
Dipu en DJ dans son peignoir étincelant.
Dipu ajke amader DJ.
Sin en journaliste.
Sin ekjon sangbadik.
Richard et Véronique, une émission réalisée par Sumon, de plus en plus technicien.
Microphone ache Richard ebong Véronique ebong sathe ache amader technicien Sumon.
Et vous, vous êtes au top, une oreille citoyenne autour d'un cerveau en attente. Go et bravo, on commence par l'alphabet.
Oh, oh, oh. Blabla words.
Et nous sommes très très heureux d'accueillir Desbélé. Bonjour.
Bonjour.
Desbélé, tu viens d'Érythrée. Quelle est la langue que l'on parle ?
En Érythrée, on parle plusieurs langues, mais l'officiel, c'est qui s'appelle Tigrinya. C'est Tigrinya qu'on parle en fait.
Le Tigrinya.
Ouais.
Tigrinya. Toi, tu mets un i. Tigrinya.
Ouais, Tigrinya.
Alors, nous t'écoutons. L'alphabet, il y a combien de lettres ?
Il y a plusieurs lettres, mais comme le son en fait. Par exemple, on dit B. Bou, bi, ba, bie, b, bon. Se, sou, si, sa, si, si, so. Me, mou, mi, ma, mie, mi, mon. Che, chou, chi, cha, che, chi, cho. Hé, hou, hi, ha, hé, hu, ho.
Et maintenant, nous répétons avec Desbélé.
Oui. Bé.
Bé.
Bou,
bou,
bi,
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 ba,
ba,
bie,
bie,
bu,
bu,
bo,
bo,
sa,
sa,
su,
su,
si,
si,
sa,
sa,
sie,
sie,
si,
si,
so,
so,
ha,
ha,
hu,
hu,
hi,
hi,
ha,
ha,
hie,
hie,
hu,
hu,
ha,
ha,
ma,
ma,
mu,
mu,
mi,
mi,
ma,
ma,
mie,
mie,
me,
me,
mo,
mo,
she,
she,
shu,
shu,
si,
si,
sha,
sha,
xie,
xie,
si,
si,
sho,
sho,
te,
te,
tu,
tu,
ti,
ti,
ta,
ta,
tie,
tie,
tu,
tu.
Oh.
Oh.
Et on peut continuer comme ça toute la journée. Desbélé, moi je connais un mot, c'est krumpti. En krumpti, il fait korti. Ça va, non?
Krumpti ou...
En hiver.
Ah, ok, krumpti.
Krumpti, pardon. Ouais. Et il fait froid, korti.
Kori, il fait froid, ça veut dire c'est kori.
Oui, kori, je me suis trompée, ouais. Bien sûr.
Ouais, c'est kori, en fait.
Très bien, merci beaucoup Desbélé.
Merci d'avoir...
Tu nous couperas bientôt les cheveux ?
Oui, oui, pourquoi pas.
Très bonne journée.
Blabla minute.
Blabla minute. Blabla minute.
Vous écoutez Blabla Mix, il est 12h06 et le petit son que vous venez d'entendre, c'est Mehmet. Mehmet, vous êtes un homme charmant. Bonjour.
Bonjour, merci. Comment
allez-vous ?
Ça va très bien.
Mehmet, vous êtes du Kosovo. Le Kosovo a toujours été convoité, dérobé, rattaché à l'Illyrie pendant l'Antiquité, à l'Empire serbe, à l'Empire ottoman, à l'Albanie, au Royaume de Yougoslavie. Qu'est-ce que vous avez au Kosovo qu'on s'arrache? Pourquoi on veut toujours vous voler? Qu'est-ce qu'il a, le Kosovo?
Ben, en fait, Kosovo, il y a beaucoup de richesses. Donc, toutes ces richesses, les gens, ils sont vraiment intéressés par ça. Et c'est pour ça que même au jour d'aujourd'hui, même on a encore les problèmes avec la Serbie. Car la Serbie, elle veut toujours garder, parce que sur une côté, c'est là, entre avec la frontière, qui a le mine d'or. Et du coup, ça, c'est les grandes richesses et elles fonctionnent encore. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu toujours de la guerre. On était toujours un pays qu'on n'a jamais voulu... et aller ailleurs pour avoir un autre pays, mais c'est toujours on s'est défendu malgré depuis l'époque des Ottomans, et on a toujours réussi de se défendre aussi grâce à ça. Aujourd'hui, on existe encore comme un pays et comme un peuple albanais.
Et d'ailleurs, autonome, indépendant depuis 2010.
Depuis 2008, oui, on est indépendant. On a eu et là, ça doit faire 8 ans que. On est vraiment un pays et que maintenant il y a beaucoup de pays qui nous connaissent comme pays, parce qu'avant c'était assez compliqué, parce que quand je suis arrivé en France, dans mes documents ça marquait pas nationalité kosovare, mais c'était yougoslave, malgré qu'il existait, il n'a pas existé à mon époque, parce que moi quand j'ai grandi, l'Yougoslavie ça n'a pas existé.
Tu as quel âge?
Là j'ai 24 ans.
Donc les Français connaissent bien le mot Kosovo. On entendait souvent la guerre du Kosovo.
Oui.
Mais toi, la guerre du Kosovo...
J'ai vécu.
Tu avais quel âge pendant la guerre du Kosovo?
Pendant la guerre du Kosovo, moi j'avais 5 ans. Et malgré l'âge que j'avais, mais on a toujours senti, même aujourd'hui, on a les sentiments aujourd'hui de cette époque-là. Car c'était vraiment la grosse souffrance. Et s'il n'y avait pas donc, l'armée des États-Unis et de la Turquie, et la France aussi d'ailleurs, parce que même l'armée française existe encore en Kosovo, il y a la grande caserne.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui, il y en a encore la grande caserne qui existe. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a eu la liberté. Et en 1999, c'est vraiment là qu'on a eu vraiment la liberté de se dire qu'on n'est plus envahi par un peuple qu'il n'a rien à faire dans notre pays. Mmh. Et du coup, après, il y a beaucoup de gens qui étaient morts, il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. Et grâce à ces martyrs, aujourd'hui, on peut y vivre. Et on parle albanais, on ne parle pas la langue étrangère dans notre pays, parce que ça a été toujours à l'école. Nos ancêtres, ils ont toujours eu pour obligation d'apprendre la langue qu'ils n'ont même pas eu envie de l'apprendre.
Donc, la langue du Kosovo, c'est...
Albanais.
C'est l'albanais.
Oui, c'est l'albanais, parce que avant, donc, au Kosovo, c'était pas vraiment un pays, c'était une province d'Albanie. L'Albanie, c'était vraiment un pays grand et puissant aussi. Mais en 1912, ils ont décidé qu'ils ont dit que l'Albanie ne pourra pas avoir ses capacités de garder plus toute cette terre. C'est pour ça que l'Albanie, elle était divisée en plusieurs morceaux, et c'est une petite Albanie. Mais il y avait une grande Albanie que ça existait.
Donc, en effet, dès qu'on parle du Kosovo, eh bien, nous plongeons dans la géopolitique, c'est tout de suite compliqué. Revenons à ce que pouvait voir un enfant de 5 ans ou de 10 ans par sa fenêtre. Ça ressemblait à quoi? Tu habitais où?
Donc moi, j'étais vraiment dans les provinces de Kosovo, où il y avait vraiment la guerre, la plus grande guerre. Parce que là, il y avait vraiment les commandants généraux de l'armée de Kosovo, que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Ademir Chari, et c'était vraiment dans la province où j'étais. Et du coup, là, c'était vraiment pas possible d'y vivre. Du coup, on était obligés de partir de nos maisons, de partir de nos villages, de partir même du pays aussi. Il y a beaucoup de personnes qui, pendant cette époque-là, ils étaient obligés de quitter le Kosovo, parce que sinon... Il aurait été mort, et il y a beaucoup de gens qui étaient morts à cette guerre-là. Mmh.
Donc du coup, à travers la fenêtre, tu voyais la guerre?
Toujours la guerre, la misère, la souffrance, le malheur dans tous les yeux des gens, même si j'étais un enfant, on voyait le malheur et tout. Mmh. Et on était tout le temps obligés de se cacher, même si on était petits, eux, parce qu'il y avait... Les paramilitaires, qu'ils étaient vraiment des personnes qui, c'était pas vraiment l'armée. normal, c'était une histoire d'armée qui était vraiment très brusque. Il y avait beaucoup de génocide aussi, donc c'est pour ça qu'on était obligé de se cacher tout le temps.
Et comment es-tu arrivé vivant en France ?
Ah, donc comment je suis arrivé en France ? Moi, en France, je suis arrivé en 2010, en juin 2010. Je suis arrivé pour raison que j'ai eu au Kosovo par rapport à les coutumes, parce que malgré tout, il y a une grosse difficulté, parce que les coutumes de Kosovo, ils sont compliqués, parce qu'ils fonctionnent vraiment par les canons. Je ne sais pas si vous... En fait, les gens, ils respectent vraiment canons. Et canons, c'est un sort des livres avec la loi populaire traditionnelle. Parce qu'avant, ça n'existait pas un État. Donc, ils ont fonctionné pour ça, mais ça, il y a 400-500 ans en avant qu'ils ont fonctionné. Et à cause de ça, donc moi, j'ai eu des problèmes, car donc j'ai eu un mariage arrangé avec une personne que j'ai jamais aimée. Et du coup, j'étais obligé, à cause de ça, j'étais obligé de quitter mon pays, parce que j'avais touché l'honneur de la famille, l'honneur de la fille et tout, donc c'était plus possible de vivre là-bas.
On voulait te forcer à te marier avec quelqu'un que tu n'aimais pas.
Que je l'aimais pas.
À cause de ce livre des traditions qu'il faut suivre.
Oui.
Quoi d'autre comme tradition, par exemple, que vous devez suivre ?
Il y en a plein, il y en a plein. Parce que là-bas, ça marche. Après, maintenant, on ne peut pas dire que ça ne marche pas encore, ça marche toujours. C'est en fait, du moment que quelqu'un est tué, c'est 100%, on dit. Quand on dit 100%, c'est du, par exemple, moi j'ai tué quelqu'un, et l'autre il va me tuer ou il va tuer quelqu'un de ma famille. Et ça, malheureusement, ça s'en est encore. Et c'est pour ça que c'était plus possible de vivre là-bas. Et comme un jeune de 18 ans, donc j'étais obligé de quitter mon pays, je suis arrivé en France, je suis arrivé à Lyon.
Juste avant la France, et c'est Sine qui prendra le relais, ces familles, en fait, ce sont des Albanais qui s'entretuent.
Oui, c'est des Albanais qui s'entretuent malheureusement. Mm-hmm. Et là, même aujourd'hui, si on regarde l'internet ou si on regarde les télés, on voit que ça marche encore. Mm-hmm. Parce que on a eu un gouvernement, on a eu un État, mais on n'a pas eu de la chance d'avoir un bon gouvernement. Donc personne ne nous protège, ni la police, parce que du moment qu'on parle des coutumes, du moment qu'on parle de ça, et la police aussi, elle sait tout de suite que c'est trop compliqué à mettre dans se mêler de ce genre d'histoire. Et du coup, il essaie d'éviter de rentrer dans ce genre de milieu.
Donc la police n'a pas vraiment un rôle de protection, de faire respecter la loi.
Mais il essaie, c'est pas qu'il n'essaie pas, il essaie, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire parce que... les gens, malheureusement, ils ne respectent pas la police assez comme il fallait les respecter.
Uh-huh. Et que sais-tu du Kosovo aujourd'hui ? Est-ce que tu as des nouvelles ?
Du Kosovo, j'ai des peu de nouvelles, un petit peu de parce que après, toute cette sorte d'arrangement, ça a continué pendant tout le temps dans ma famille. Il y a eu ma sœur aussi qui a eu le même problème et qu'elle est obligée aussi de quitter parce qu'elle était amoureuse d'une autre personne. Elle a eu un mariage arrangé et du coup, elle aussi, elle était obligée. Aujourd'hui, elle est en France aussi.
Et pourquoi vous ne voulez pas de ce mariage forcé ? Pourquoi tu ne voulais pas vivre avec une femme que tu n'aimes pas ? C'est pourtant formidable, c'est ce que tout le monde fait.
Non, parce que s'il n'y a pas de l'amour, il n'y a rien dans cette vie. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision malgré les difficultés derrière.
Blabla Mix এটা সত্যি
কঙ্গো
একটি বড় প্রোগ্রাম রিফিউজিদের জন্য
Blabla Mix le
Blabla Mix Batini Belax
lien entre les
Bangladesh
Kurde
Burkina Faso
Bosnia
Turquie
Tunis
Chine Afghanistan
مرحبا بكم في Blabla Mix
Kosovo
Iraq
بفتح افاق شرق
الهند
Bangladesh
Guinea Sudan
Iran
Libya
Pakistan
Sudan
Japon
Blabla Mix is a program of refugees.
Je te laisse le micro.
Merci, midi et quart. Vous écoutez Radio Canu. Merci d'être venu, Mohamed. Et comment s'est passé ces 5 ans en France ?
Bah là ça va faire 6 ans là, en France. Bah en début c'était difficile. Pourquoi c'était difficile? Parce que quand je suis arrivé je connaissais personne. J'étais un jeune garçon à peine de 18 ans. Quand je suis arrivé j'étais perdu, je connaissais pas la langue, je connaissais pas le pays. Et des fois il y a les gens qui me regardaient bizarrement, je comprenais pas, peut-être ils me disaient des mots gentils, peut-être pas, mais je comprenais pas. Ça fait, en début ça fait peur. Parce que on sait pas où on est et qu'est-ce qu'on va faire. Mais après, bah, quand je suis arrivé ici, après j'ai rencontré des, mes compatriotes. Et bah, c'est eux qui m'ont dirigé directement dans la forme réfugiée, préfecture, tout ça, pour commencer vraiment la procédure des demandeurs d'asile. Et là, bah, j'ai commencé, je me suis inscrit comme demandeur d'asile. Après, je suis allé au forum réfugié, j'ai rempli tous les documents qu'il fallait faire. Et après, j'avais le récépissé. J'avais un sort de liberté que je pouvais circuler normalement sans avoir peur, sans les garder derrière pour se dire est-ce que quelqu'un va me faire retourner dans mon pays.
Et depuis que vous êtes arrivé en France, vous étiez toujours à Lyon?
J'étais tout le temps à Lyon.
D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez des enfants?
Aujourd'hui, je suis fiancé. J'ai un magnifique enfant qui a 3 mois et demi. J'ai ma fiancée qui est d'origine indienne. Elle était là, elle est arrivée à l'âge de 5 ans, elle était adoptée. J'ai donc dans ma famille, il y a 3 origines. Donc, il y a moi derrière le Kosovo, il y a ma fiancée qui est indienne, il y a mes beaux-parents qui sont français. Donc, vraiment, on a un grand mélange et du coup, c'est vraiment très beau de voir ça. Et ça se passe super bien.
Bah, tant mieux. Ouais, et vous travaillez en logistique. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Bah, moi, je travaille en logistique, donc je m'occupe tout ce qui est, bah, en fait, surgelé. Et je m'occupe tout ce qui est expédition, préparation de la commande que les clients ils demandent. Et du coup, bah, nous, on prépare et après, on expédie tous les camions. Et après, maintenant, bah, la semaine dernière, bah, j'ai passé tous mes cassettes pour faire la manutention aussi avec l'engin motorique.
Et est-ce que vous aimez?
Oui, j'aime bien.
Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez toujours travailler en logistique?
Ah bah non, bah en fait moi, pour le moment, là, j'ai du rêve qu'ils ont toujours pas... J'ai pas arrivé au bout et je suis en train de le faire. Bah le premier, c'est bah, le 30 novembre, j'ai rendez-vous pour la naturalisation. Et après, je vais commencer à faire la procédure pour devenir sapeur-pompier. Parce que c'est une chose que ça m'a toujours passionné, c'est une chose que j'ai toujours aimé et j'ai tout faire pour y arriver. Et dans un sens, je remercie la France aussi pour les vies qu'elle m'a données.
Très bien. Eh bien, tu pourrais revenir dans une prochaine émission et interviewer un pompier.
Bah, bien sûr.
Ça pourrait être une bonne
avec
idée.
Avec plaisir.
Et est-ce que vous avez la même religion entre... Ou est-ce que vous avez une religion d'ailleurs entre toi, ta femme, ton enfant, tes beaux-parents?
Moi personnellement, j'ai crois en Dieu mais sans religion. Avant, moi j'étais né dans une famille musulmane parce qu'au Kosovo il y a 95% de population musulmane, mais aujourd'hui je peux pas dire parce que je peux pas dire que je suis musulman parce que je respecte pas assez. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je peux pas dire autrement.
C'est bon Sine?
Oui.
Merci beaucoup Mehmet et bonjour donc à ta famille.
Merci.
Sine, on te retrouve tout à l'heure avec le réalisateur Anthony Oliva, mais tout de suite c'est Dipou.
Blabla zik. Blabla musique.
Bonjour à toutes, je suis Dipou avec vous tous les dimanches à Radio Canu. Vous êtes écouté avec moi?
Non, juste, on ne touche pas ton micro, Dipou, en fait, parce que ça fait des bruits, voilà. Don't touch the micro, ah. Voilà.
Merci. Et j'ai 200 shows pour vous aujourd'hui. D'abord, on va écouter ce show d'Indien, c'est Bollywood, il s'appelle Mastiki Patsala, il y a deux films qui sont Rang de Basanti, j'ai regardé le film, c'est très vieux film, c'est peut-être, vous pouvez regarder le film, et c'est qui chante cette chose qui est Rahman, c'est très populaire à Indien. c'est on va écouter. Chose aussi qui s'est forcé, c'est je pense que vous êtes connus bien, c'est encore un soir qui chante Céline Dion, c'est très populaire.
Et tu aimes?
Oui.
Ah, dis pour devenir de plus en plus français, tu me fais peur.
Parce que c'est elle chantait, c'est avant, c'est My Heart Will Go. On, My Heart Will Go On, c'est, oui, tout le monde connaît, c'est bien de Titanic.
Ah, d'accord. Donc c'est comme ça que tu as connu Céline Dion?
Oui.
Oui, mais j'ai pensé à vous qu'elle a... États-Unis.
États-Unis?
Oui, c'est, je ne jamais savais pas, elle a... Oui, c'est canadienne, francophone canadienne.
Donc elle est québécoise et elle a travaillé longtemps à Las Vegas, mais Dipu... Pourquoi tu as choisi la chanson qu'on va écouter là?
Oh, c'est très romantique.
Ah voilà, tu es romantique, Dipu.
Oui. Tu penses?
Oui, je pense.
Oui, je pense aussi. Et on va écouter.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ses visages d'enfant et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout.
tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. De grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir.
Hello, je pense que vous avez aimé aussi. Et Anis, tu aimes?
Bah, ouais, j'aime bien Céline Dion. Hein.
Pourquoi tu aimes?
Parce qu'elle chante bien.
Et Charlie?
Hein, Charlie?
Je suis pas très fan, non.
Non?
Non, pas trop.
Hello. Et... bonne journée à toutes.
Merci beaucoup, Dipou, pour toi, ce choix musical qui était vraiment... Vraiment, tu me fais souci, tu deviens de plus en plus français. Attention, Dipou, hein, ne perds pas ton identité, hein, Bollywood.
Bla bla bla, invité.
Anis et Charlie, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va rectifier tout de suite... nous dire qui êtes-vous et de quel collectif vous êtes.
Nous, on est un collectif des étudiants étrangers sans papier. Ça existe depuis septembre 2015. On a eu beaucoup de débats, beaucoup de conflits pour avoir inscrit beaucoup de camarades qui sont des demandeurs d'asile, notamment des sans papier.
Beaucoup de débats entre qui et qui?
Bah, entre nous et la présidente.
Ah, la présidente de ouais. La République
de l'université. Parce que je pense que dans le dossier, ils ne demandent pas titre de séjour. Par contre, des fois, ils demandent ça et nous, on bat pour ça, pour avoir à inscrire tout le monde.
Alors, on va reprendre les choses du début. Anis, pourquoi tu veux étudier finalement?
Parce que c'est mon projet, c'est mon avenir, je veux pas lâcher, malgré que je suis sans papier, mais je veux pas lâcher mes buts et mon avenir, je peux pas lâcher, quoi. Mm-hmm. J'aimerais bien étudier, j'aimerais bien continuer mon chemin et j'aimerais bien avoir les choses en clair.
Tu es un jeune homme qui a envie d'apprendre.
Bah voilà.
Et alors, ce n'est pas légal en France, si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas étudier. C'est une question en fait. Charlie peut-être?
Oui, alors en fait si hein, l'université n'est pas tenue de demander les preuves de la régularité du séjour sur le territoire pour une inscription. Hein. En réalité, il leur suffit d'avoir n'importe quelle pièce d'identité. Du coup, celles qui demandent la régularité du séjour, en réalité elles font du zèle et elles se posent comme supplétives de la préfecture simplement. Parce qu'il n'y a aucun problème à inscrire des personnes en situation irrégulière. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a réussi à inscrire bon nombre de sans-papiers à l'université.
Vous, le collectif des étudiants étrangers sans-papiers solidaires de Lyon, comment avez-vous fait pour permettre à des personnes comme Anis d'étudier. Comment comment avez-vous fait? Vous êtes allé sous les fenêtres de la présidente? Vous avez fait un...
Ouais,
sous les fenêtres.
La première fois, on a envoyé un mail. On a bien aimé que les choses, ça se passe tranquille, cool, en moderne, quoi. Mais notamment, l'ancien président, on n'a pas eu de réponse de notre mail. Et du coup, on a attendu un moment pour avoir la réponse, et quand on n'a pas eu la réponse, on a décidé d'aller à son bureau, on a débarqué à son bureau. Je sais, c'est illégal, mais...
Vous étiez combien?
On était des cinquantaines. On a débarqué, oui. On a demandé une réunion immédiate. On a proposé ce qu'on veut faire. On a parlé à notre situation, on a discuté qu'on ne peut pas rester comme ça et tout. Et après, on a eu un autre rendez-vous pour déposer le dossier. Donc, c'est le premier pas qu'on a fait, quoi.
Et la présidente, elle vous a reçu comment?
La présidente, c'était la deuxième épisode, parce qu'avec le premier président, avant cette présidente, on a eu l'inscription de quelques-uns. Mm-hmm. Et du coup, notamment, il est parti. Donc, on était obligé de rester attendre que la deuxième présidente, elle vienne et elle prend sa place. Et du coup, ça nous a pris du temps, mais on n'a pas lâché, on a resté toujours solidaires. On a eu des réunions, on a battu, quoi. Et après, la présidente, je pense qu'elle était un peu sympa. Elle a répondu à notre email. Tout s'est passé bien avec la présidente, quoi.
Mm-hmm. Alors, Charlie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la présidente actuelle, elle a un peu fait campagne, notamment en soutien au collectif. Donc, elle s'est retrouvée une fois en poste, c'est-à-dire qu'elle était opposée à la présidence sortante. Mm-hmm. Et du coup, elle s'est retrouvée un peu acculée à nous écouter un peu plus que l'ancienne présidente, dans la mesure où elle avait notamment fait campagne en notre faveur, et elle avait été élue en réalité à ce poste-là, sur ces bases-là. Donc elle s'est retrouvée dans une situation un peu compliquée. Au départ, ouais. On a eu quand même beaucoup de refus au départ, et ensuite, effectivement, on s'est mobilisé collectivement, on a occupé les locaux de la présidence, notamment une nuit.
On a dormi là-bas.
D'accord. Ouais. Avec la présidente.
Ouais, avec la présidente, uh-huh. Il faisait très froid.
Elle passait régulièrement voir tout le monde, ouais. D'ailleurs. Mais voilà, on avait une trentaine de refus à ce moment-là, suite à l'occupation. Bon, refus qui, au départ, semblait ferme. Hein. Suite à l'occupation de nuit, sur les 30 demandes, on a obtenu 28 inscriptions.
Mm-hmm. Ah, c'est cool, ça.
Donc finalement, hein, c'est possible.
Mais finalement, c'est quand même lié à des personnes. Si à chaque président, à chaque nouveau président, il faut recommencer le combat, n'y aurait-il pas moyen de mettre en place un protocole? Est-ce que c'est en voie de... Est-ce que c'est faisable, ce genre de choses?
C'est plus ou moins ce qui a été fait, en fait, notamment pour pouvoir s'inscrire hors délai. Parce que du coup, le calendrier universitaire ne correspond pas nécessairement au calendrier migratoire. Mmh. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à la présidence. Et du coup, il y a plus ou moins une procédure qui est mise en place, mais elle a beaucoup de défauts, quoi. Donc nous, on travaille un petit peu à ça. Mais,
Il n'y a que Lyon 2 qui est concerné, ou il y a...
Si, si, si. On a eu une inscription de 4 personnes, je pense, à Lyon 3. C'est cool, quoi.
Mm-hmm. Et Anis, alors, qu'est-ce que tu étudies?
Moi, je suis en territoire environnement, sur Bran. Pour suivre mes études en urbanisme, il faut passer par ce portail. C'est un peu dur, mais on va y aller jusqu'au bout.
Parce que justement, les cours sont faits en français. Richard, toi qui parles un peu français, mais pas beaucoup, est-ce que c'est... Toi, tu fais des études de cuisine en ce moment. Est-ce que c'est facile d'étudier dans une langue qu'on maîtrise quand même, que vous maîtrisez peu? Oh. Enfin, Anis, toi, tu parles très bien français.
Merci. Anis, il parle très bien français, oui, mais pour moi, c'est... Non, non, c'est je pense en français, c'est vraiment les mots spécifiques, les émotions spécifiques, et, spécialement dans la cuisine, où c'est, tous les mots sont différents et sont différents.
Beaucoup de vocabulaire.
Et c'est différent vocabulaire. Et moi, c'est problème avec de vocabulaire base, et maintenant, c'est problème avec de vocabulaire spécialisé.
Et alors, du coup, Anis et Charlie, est-ce qu'il y a des cours aménagés pour des étudiants étrangers?
Moi, franchement,
Je peux me débrouiller en français grâce au collectif, parce que on a eu plein de réunions, on se mobilise tout le temps, on se trouve tout le temps. On a un petit local à l'université Lyon 2, notamment c'est temporaire, parce que maintenant on est en association, on doit avoir un autre local précis. Des fois on se trouve sur les quais, on est une petite famille.
Mm-hmm. Très solidaire.
Très solidaire, c'est comme ça que comment j'ai appris le français, quoi.
D'accord, c'est eux, c'est ce collectif qui te donne des cours.
C'est grâce à ce collectif, ouais.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qui fait d'autre le collectif, Charlie? Alors, est-ce que tu fais la cuisine?
Non, pas du tout. Je me trouverais peut-être probablement aussi bien embêtée par le vocabulaire culinaire à ta place. Non, c'est en fait effectivement la spécificité un peu du collectif par rapport aux associations un peu traditionnelles, c'est que c'est vraiment, enfin. Il est vraiment animé par les sans-papiers eux-mêmes, quoi. En fait, on est un peu tous devenus amis aussi, effectivement, depuis 2 ans. Mais l'idée, c'est quand même vraiment de se saisir toutes les problématiques tous ensemble, quoi. Il y a pas de hiérarchie, il y a pas de chef, et c'est vraiment l'entraide qui prime. Donc les uns et les autres logent chez les uns et les autres, et du coup ça crée une dynamique qui je pense est quand même aussi propice à rencontrer des gens, à sortir de l'isolement, parce qu'en fait c'est ce que la préfecture recherche, hein, l'isolement de tous les sans-papiers demandeurs d'asile. En fait, la présidence de la fac aussi, on se rend compte, essaye toujours d'individualiser les situations. Et le collectif, ce qu'on entend faire, c'est réellement de sortir de cet isolement-là, quoi. Mmh. Et de créer une solidarité vraiment à la base et organisée par les premiers concernés.
Et peut-être grâce à votre présence à Nice et tous les autres camarades, c'est gentil d'apporter vos richesses, vos connaissances et vos pratiques et vos différences. Puisque j'imagine qu'un Algérien, c'est ça, hein, tu es Algérien, a des pensées urbanistes différentes de celles des Français.
Peut-être, ouais.
Donc ça, c'est fort intéressant sans doute pour nous, pour les présidents, pour les étudiants, pour les profs.
Bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. J'aimerais bien être un modèle, je vais aller jusqu'au bout à l'université, je vais faire des efforts, malgré c'est un peu difficile au début à apprendre des mots techniques et tout, mais j'espère que je vais réussir, je vais faire des efforts et voilà, quoi.
Ouais, c'est sûr que vous travaillez 3 fois plus. Une dernière question, Richard, et ensuite...
Non, ce n'est pas une question, tu oublies qu'il dit une journée quand on est allé à la police station, tu sais, il y a manifestation devant de police... Tu racontes?
Je me rappelle, c'était à l'université.
Oui,
c'est... Là où il y a les polices, ils ont débarqué pour
Vincent.
Détacher et tout.
Oui,
on a sorti
là-bas,
par...
C'est police partout, police.
On a sorti... Ouais, on a sorti en fuir, quoi. Ouais, mais on a réussi, en fait. Il y avait plein de barrages, si on peut dire ça. Il y avait la police, il y avait des gens qui nous empêchent, mais on ne s'est pas arrêté. Et la preuve, on a réussi presque à inscrire tout le monde. Et peut-être mon collègue Charlie peut parler à un autre débat.
En fait, moi, je vous inviterais volontiers que vous puissiez venir régulièrement et nous donner des nouvelles des uns et des autres.
Ouais,
et ça, ce serait vraiment très, très bien. Ce qu'on pourrait faire pour terminer, c'est que le collectif des étudiants étrangers sans papiers solidaires a sans doute une page Facebook que vous allez nous donner.
Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Collectif des étudiants étrangers sans papiers solidaires de Lyon. On a une adresse mail qui s'appelle collectif.étudiants.étrangers.lyon@riseup.net et un numéro de téléphone.
C'est 06 68 25 59 86. Je répète, 06 68 25 59 86.
C'est 07 par contre.
07. Et est-ce qu'il y a un rassemblement prochainement?
Oui, en fait, on va faire un dépôt collectif à la préfecture sur la base de voilà.
Très intéressant, ça.
Une carte d'étudiant égale un titre de séjour, parce qu'en fait, étudier en situation irrégulière, c'est quand même extrêmement compliqué. Ils ont pas le droit aux bourses. Enfin voilà, il faut quand même continuer à se nourrir et à se loger. C'est effectivement beaucoup plus compliqué d'être étudiant quand on maîtrise pas la langue.
Donc ce rassemblement, c'est...
Du coup, ça sera fin novembre, on n'a pas encore la date exacte, mais on va faire un dépôt collectif voilà, dans le mois, donc on va organiser ça tout...
Et ben, le dimanche précédent ce rassemblement, vous viendrez nous en parler, d'accord ?
Alice,
Inch'Allah. Inch'Allah, Richard, merci.
Where is she?
Where is she? Miss Peace, where are you? Miss Peace?
Elle est là?
Elle n'est pas là.
C'est où? Miss Peace. Miss Peace.
Miss Peace.
Miss Peace. Je pense chanter ma mort,
c'est? C'est vrai? Oui. La père de Miss Peace est morte?
Oui.
Non, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Miss Peace?
Elle est morte.
Miss Peace. Qu'est-ce qui se passe?
Merci d'être à l'écoute de Blabla Mix. Sin, vous avez un réalisateur de cinéma en face de vous. Quelle chance!
C'est formidable. Merci d'être venu, Anthony.
Merci à vous.
Parlez-vous de notre film, si vous voulez bien.
Alors, j'ai depuis l'année dernière, je travaille sur mon troisième projet de film, qui est un film de plus grande envergure par rapport aux deux films précédents que j'ai faits, qui étaient des courts-métrages dans des formats plus classiques, acceptés, demandés en festival plutôt, des formats de 10 à 15 minutes maximum. Là, je mise plutôt sur un moyen-métrage au minimum, voir si on a la matière et si on arrive à faire continuer le flow romanesque, on va dire, du scénario jusqu'à un petit long métrage. Voilà, donc c'est le film s'appelle Boléro et alors c'est un peu voilà, on est un petit peu ça reprend les thèmes de manière métaphorique les thèmes de l'actualité qu'on retrouve tous les jours actuellement depuis un certain nombre d'années, depuis les années 2000-2010, qui est comment réussir à vivre de sa passion, donc gagner son argent, voilà, dans quelque chose qui est vital pour nous, quoi. Donc c'est l'histoire d'un jeune comédien qui court les castings en province. La ville de Lyon n'est pas citée, on va tourner tout le film sur la région lyonnaise, mais les personnes qui connaissent Lyon reconnaîtront la ville à l'image. Et l'idée, c'est aussi de basculer dans un univers un petit peu comme ça, bis, caché, de montrer un Lyon. Voilà, mon premier court-métrage, c'était plutôt le Lyon historique, le Lyon un peu des films de Bertrand Tavernier, le vieux Lyon, vous voyez, voilà, les traboules, les choses comme ça, la vieille architecture. Là, je voudrais plutôt montrer un Lyon 2.0, voilà, solaire, et en même temps, froid, glacial, quoi, comme l'acier, quoi.
D'accord. Et si j'ai bien compris, c'est pas votre premier court-métrage. Vous en avez fait combien?
Alors j'ai réalisé deux courts-métrages précédemment. Le premier sur un personnage également connu, emblématique de la région lyonnaise, qui se fait appeler Monsieur 1900, qui est un personnage aussi un petit peu atypique, qui court les brocantes, qu'on peut souvent croiser sur le marché aux puces à Lyon, et qui a un mode de vie aujourd'hui qui fait qu'il utilise l'objet pour l'objet, comme il aime à dire. C'est-à-dire qu'il va chercher des objets de 1900, 1920, 1930, 1950, qui pour lui semblent plus pratiques dans la vie d'aujourd'hui. Par exemple, il répète souvent qu'il a du mal avec les briques de lait. Il n'arrive pas à les utiliser. Dès qu'il veut servir un verre de lait ou une tasse ou quelque chose ou un bol, il a du mal. Il en met partout. Donc, il trouve plus pratique les anciennes bouteilles en verre, etc. Après, voilà, on peut extrapoler, on peut faire un parallèle avec toutes les questions d'écologie d'aujourd'hui, de pollution, etc. Est-ce que c'est pas mieux d'être dans quelque chose, dans des produits, des matières nobles, du verre qui est plus facilement recyclable, qui pollue moins, il n'y a pas que cette idée passiste, ça peut aussi être intéressant de comprendre ces modes de vie.
Mais c'est un documentaire, là, ou c'est une fiction ?
Alors, la forme, elle est très documentaire. Je l'avais beaucoup rencontré avant de faire le film, en amont, pour essayer de comprendre son univers. Il m'expliquait des choses, comment il vivait au quotidien, etc. Parce qu'il a un travail dans le civil. Et du coup, je pourrais vous transmettre d'ailleurs une copie du film. Le film au final a une forme assez, enfin, il a été aussi pensé, fait un peu comme les films du néo-réalisme italien ou de la Nouvelle Vague, qui sont assez, enfin, à la fois un peu empiriques et en même temps qui se veulent un peu avec une touche documentaire pour parler de quelque chose, mais c'est quand même englobé dans une histoire de fiction.
Et vous avez combien d'acteurs ou actrices qui jouent dans ce film ou...
Dans le projet actuel?
Oui.
Alors, dans le projet actuel, il y a à peu près une dizaine, quinzaine de rôles principaux, secondaires. Voilà, qui ont... Donc, ça fait déjà une grosse masse à gérer. Ouais. Pour un réalisateur comme ça, parce que même si voilà, mon premier court-métrage, je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Ensuite, j'ai fait le deuxième, on n'en a pas parlé encore, mais ouais. Je l'ai fait en 2013-2014. Là, je suis sur ce troisième projet qui est une plus grosse envergure, donc plus de comédiens. Voilà, ça demande plus de personnel pour pouvoir gérer ça. Et puis, une quinzaine de gros décors aussi sur la région. Des décors importants, des directeurs, des propriétaires qui nous soutiennent pour pouvoir faire ce projet.
Et comment vous avez choisi ces acteurs?
Alors, les acteurs, il y a plusieurs façons. Ça peut être parce qu'on connaît un visage, on a repéré un visage ou déjà il y a quelque chose, il y a quelque chose dans le physique, dans le regard, ou dans la stature du comédien. Enfin, ça peut être quelqu'un déjà d'un certain âge, mais posé, avec une stature un peu,
une belle présence.
Voilà, ça peut être des jeunes comédiens, d'autres comédiens qu'on a repérés dans d'autres films. Ou au théâtre, etc. Ou qu'on a déjà vu jouer sur des bandes démo, par exemple, qui nous envoient.
D'accord. Et est-ce que vous jouez vous aussi dans votre film ou pas?
Alors voilà, c'est un peu la plus grosse critique que je recueille depuis que j'ai lancé ce projet. C'est que j'ai fait le choix d'interpréter le rôle principal du jeune comédien qui court les castings, qui galère, qui a du mal à joindre les deux bouts, donc l'histoire du projet, et qui, pour arrondir ses fins de mois, va se lancer dans un protocole de tests pharmaceutiques. D'accord. Qui vont, lui, engendrer des effets secondaires.
D'actualité, donc.
Voilà, il y a eu l'histoire à Nantes, là, des essais, il y a quelques mois, qui ont mal tourné pour des personnes qui avaient besoin de gagner un peu d'argent, quoi.
D'accord. Et c'est quoi le plus dur sur Bolerol?
Le plus dur, c'est d'avoir besoin donc de cette grosse équipe pour mettre en image tel que je l'ai en tête le projet. Donc d'avoir cette équipe là qui soit en même temps, qui comprenne tout ce que je cherche à faire. De gérer à la fois les différents décors, parce que ça demande beaucoup de déplacements du coup pour l'équipe. Oui. Et ils sont pas forcément, on a plusieurs 4-5 sites qui sont rapprochés, 4-5 sites de décors rapprochés où on a 3-4 décors sur chaque site. Mais il faut pouvoir gérer aussi toute cette logistique, tous ces déplacements et la dizaine de 10-15 comédiens principaux tout en jouant en même temps. Donc c'est assez complexe et c'est assez presque schizophrénique.
Et ça vient d'où cette inspiration? Est-ce que c'est d'une histoire vraie ou...
Si c'est biographique, finalement. Alors, est-ce que tu testes des médicaments, Anthony?
Ça m'est arrivé il y a quelques années. Enfin, je ne suis pas allé aussi loin que ce qu'on verra dans le film. Mais voilà, il y a eu un moment donné où il fallait arrondir un peu ses fins de mois. On entend des appels à candidature pour un laboratoire et puis on entend que c'est rémunéré et puis on se dit oui on a besoin d'argent donc pourquoi pas tenter. Mmh. Alors après il y a aussi tout l'aspect cinéma fiction et on essaie aussi de faire quelque chose qui va entraîner le spectateur dans autre chose que le quotidien.
Anthony, je me permets de suggérer à Cine de... Cine est intéressé aussi par le cinéma et il voulait être youtubeur. Et on s'interrogeait où, comment choisir où poser la caméra. Et si Cine, par exemple, voulait se filmer, est-ce que tu peux lui donner des conseils? Comment on sait où poser la caméra quand on joue soi-même?
Alors là, c'est un point particulier qu'on étudie d'ailleurs, que j'ai eu à enseigner également à l'université Lyon 1. des étudiants, ça pose le problème de la question de du point de vue. En fait, là, où poser la caméra, c'est quel point de vue on va donner à sa scène, à son plan, etc. Est-ce qu'on va filmer dans une grande pièce et mettre la caméra très loin, en voyant les personnages à l'opposé, noyés dans le décor? Ou est-ce qu'on va être près d'eux, avec des plans serrés, des gros plans, pour voir leurs intentions, leurs intonations, leurs angoisses, leur stress, etc. Ça, c'est une question que uniquement le réalisateur peut répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut voir, on a besoin pour la scène, pour l'humour, etc., de voir tout le décor, toute la pièce en entière, ou à l'inverse, on a peu de moyens, on peut décider de choisir de serrer sur le personnage, de pas voir trop les fonds, de restreindre uniquement sur la voix, sur les expressions du visage, ou si besoin, en plan moyen du personnage, s'il y a de la gestuelle, un petit peu des bras, du haut du corps ou des jambes.
Et si vous voulez définir votre film en un mot?
Définir le film en un mot, ça serait de parler de l'envers du décor, du rêve de réussite du monde artistique, du spectacle. Parce que depuis quelques années, enfin une quinzaine d'années, on voit avec l'émergence des émissions de télé-réalité, des choses comme ça, qui sont voilà, artistiquement, culturellement, niveau sujet assez léger. Et donc, voilà, c'est pour des personnes qui rêvent de leur quart d'heure de gloire, combien à côté galèrent et cherchent vraiment à vivre et à donner des choses intéressantes à lire, à voir, à écouter. Voilà.
Bah, formidable. Merci beaucoup. Merci d'être venu avec nous.
Merci de m'avoir reçu.
Merci Anthony Oliva. Est-ce qu'on peut voir des choses que vous avez faites sur YouTube ou sur quelque chose?
Alors, il faut que je m'y attelle. Il y a sur les sites professionnels la bande-annonce de mon premier cours, le deuxième également. Et il faudrait que je mette en ligne ces films. Voilà, il faut que je m'en occupe.
Anthony Oliva et Cine, merci beaucoup. C'était une rencontre du troisième type dans le cinéma et gardez surtout votre motivation. Tu demandes l'asile et tu n'as pas le droit de travailler. Tu veux être bénévole et tu ne sais pas comment faire. Alors le 25 octobre est fait pour toi, le Skill Dating. C'est à 17h, toutes les associations et toi, donc, futur bénévole. Ce sera dans les locaux du Secours catholique 7 rue Baraban, Arret, Alsace, avec le C3 ou le C16. Et 3, 2, 1, c'est parti, c'est le Skill Dating. C'est mardi à 17h pour trouver une association qui te ressemble et faire des choses pour tromper l'attente. Singa et Anciela, le Secours catholique, mardi de 17h à 19h, 7 rue Baraban. Blabla Mix aura son stand. Vous pourrez venir demander à Dipou et Souman toutes les questions que vous vous posez pour participer à cette émission. Singa, toujours, tu es français, francophone et tu as envie d'accompagner un demandeur d'asile dans son quotidien. En clair, chez Singa, on appelle ça un buddy. Eh bien, il y a un apéritif lundi, l'apéritif buddy, apéro rencontre, jeu, buddies. C'est demain lundi au bar de l'autre côté du pont. C'est 25 cours Gambetta et c'est à partir de 18h30. Et toujours demain lundi à 17h, le café Le Simone, pour venir faire de la conversation française, pour pratiquer ton français. Richard, tu pourras y aller au café Le Simone. C'est 45 rue Vaubecourt. Et là, c'est grâce à JRS Welcome. Et enfin, pour terminer cet agenda, Oikidion, prochaine soirée folle de son, à ne pas manquer. C'est au Sarrasineur, Créfade, Lyon. C'est mercredi 2 novembre. À 19h30, du jamais vu, jamais entendu, vous pourrez dire à vos enfants, j'y étais le 2 novembre, je les ai vus et j'ai changé. Aïe, aïe, Aïe. La semaine prochaine, l'équipe part en vacances, plongée sous-marine et ski de piste. Rendez-vous alors le 6 novembre avec la famille Clemens qui nous expliquera comment continuer de s'engueuler quand on héberge un demandeur d'asile. Est-ce que c'est possible ? Clément nous dévoilera le Singapour et Richard interviewera un invité surprise. Merci à tous et bravo à Soumon qui était à la réalisation technique.